Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Après 5 ans de guerre, la situation est toujours aussi confuse au Yémen et la pandémie du coronavirus n'aura rien changé à la situation. Les Houthis, soutenus par l'Iran, contrôlent toujours le nord et l'ouest du pays et sa capitale Sanaa. La coalition internationale, emmenée par l'Arabie saoudite, apporte son soutien au président Abed Rabo Mansour Hadi, qui tient les terres de l'Est, peu peuplées, ainsi qu'une frange de la côte ouest, le long de la mer Rouge, jusqu'au port d'Odeida. Quant au sud, autour d'Aden, il est principalement dominé par les séparatistes, soutenu par les Émirats arabes unis. C'est de ces velléités d'indépendance du Sud que nous allons parler avec l'anthropologue Franck Mermier, membre associé de l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Il connaît bien le Yémen pour y avoir vécu et travaillé et signe un article dans le dernier numéro de la revue Moyen-Orient qui sort en kiosque ce mois-ci avec un mois de décalage. Crise sanitaire oblige. En seconde partie d'émission, nous retrouverons Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire pour lire la presse régionale. Bonjour Franck Mermier.
Bonjour Éric Bataillon.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Istanbul, où vous résidez actuellement. Alors nous n'allons pas parler de la Turquie, mais du Yémen, à l'occasion de la sortie du numéro 46 du magazine Moyen-Orient, un numéro dans lequel vous signez un article consacré à Aden et au Yémen du Sud. Franck Mermier, comment interpréter la déclaration d'autodétermination prononcée par le STC, le Conseil de transition, qui pourtant est censé être un allié du président Abed Rabo Mansour Hadi?
Alors, il faut savoir aussi que cette déclaration d'autodétermination a été faite par les leaders sécessionnistes sudistes à Abu Dhabi, c'est-à-dire aux Émirats arabes unis, donc dans le pays de leur allié principal, l'allié régional de ces séparatistes sudistes. Et donc, c'est un multiple tournant de cette orientation vers le séparatisme de ce Conseil de transition sudiste qui a été créé sous l'égide des Émirats arabes unis et qui souhaite aujourd'hui, enfin depuis le 25 avril, donc administrer de manière autonome toutes les régions du sud de Yémen qui constituaient l'ancienne République populaire et démocratique du Yémen, donc le Yémen du Sud, jusqu'en 1990, avant l'unité du Yémen. Et donc cette entité séparatiste donc a décidé d'administrer les régions du Yémen du Sud et a commencé effectivement aussi des opérations militaires pour étendre sa zone d'influence dans le sud, parce qu'il faut savoir aussi que plusieurs régions du sud sont réfractaires à l'influence de ces séparatistes et sont encore toujours sous le contrôle, même si souvent ce contrôle est théorique, du gouvernement du président Hadi, qui, lui, est empêché de venir à Aden, dans sa capitale, et toujours à Riyad, en Arabie saoudite.
Mais alors, vous avez dit justement, Franck Mermier, que la direction du STC étant basée à Abu Dhabi, cette déclaration d'autodétermination a été faite donc dans les Émirats. Pourquoi, selon vous, les Émirats ont-ils laissé faire cette déclaration ?
Alors, les Émirats arabes unis jouent un rôle assez trouble au Yémen depuis plusieurs années, depuis le moment de leur engagement militaire aux côtés de l'Arabie saoudite en mars 2015. Donc, sous le couvert d'aider à la restauration du pouvoir du président Hadi, donc, les Émirats arabes unis sont intervenus dans cette guerre, mais durant leur intervention, ils ont surtout aussi aidé à la création de forces parallèles au gouvernement légitime du président Hadi, soit des forces salafistes dans le nord, notamment dans la région de Taiz, soit aussi des forces séparatistes, où on retrouve aussi des salafistes, dans le sud du Yémen. Et puis, il faut savoir aussi que les Émirats arabes unis ont des visées particulières, notamment sur l'île de Socotra, dans l'océan Indien, qu'ils essayent de contrôler par l'intermédiaire de leurs alliés séparatistes. Ils ont également des vues sur le port d'Aden. Et donc, il y a également une rivalité régionale entre la Turquie et les Émirats arabes unis dans cette région, avec la présence turque également en Somalie, ce qui fait que les Émirats arabes unis ont trouvé dans cette entité sudiste, séparatiste, dans ce conseil de transition sudiste, un allié pour étendre finalement leur zone d'influence dans une partie du Yémen qui correspond à l'ancien Yémen du Sud.
Mais les indépendantistes ont-ils les moyens de leurs ambitions dans cette région sud du Yémen, alors que justement les Émirats arabes unis se sont retirés militairement de la coalition durant l'été 2019?
Alors, les Émirats arabes unis ont retiré leurs troupes du Yémen, mais dans le même temps, ils continuent à apporter leur aide militaire à ces séparatistes qui réussissent, grâce au financement des Émirats, à faire basculer parfois certaines unités dans le camp séparatiste. On l'a vu récemment dans l'île de Socotra, où une unité militaire sous gouvernementale est passée dans le camp de la rébellion. Et donc, cette débauche de moyens des Émirats arabes unis permet finalement aux séparatistes aussi de conserver une position militaire très importante, puisqu'il faut savoir aussi qu'ils contrôlent presque totalement la ville d'Aden. Mais en revanche, ils sont bloqués dans les régions plus à l'est, notamment dans les régions du Hadramout, là où le pouvoir du président Hadi s'exerce toujours. Et puis aussi, les séparatistes sudistes n'ont pas rassemblé toute la rue séparatiste, si on peut dire sudiste, derrière eux, parce que d'autres mouvements dans le sud aussi sont contre l'influence des Émirats arabes unis, voire de l'Arabie saoudite, dans leur région. Donc, ce qui fait que finalement, de plus en plus, il apparaît clairement que ce mouvement séparatiste, en tout cas sous la forme du Conseil de transition sudiste, est véritablement un instrument direct de la politique d'influence des Émirats arabes unis au Yémen.
Justement, sur le terrain, les indépendantistes ne semblent pas avoir pris le contrôle d'institutions clés, comme par exemple le siège de la Banque centrale. Il y en a une à Sanaa, mais il y en a une aussi à Aden. Comment expliquer cette prudence? Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres mouvements autonomistes ou indépendantistes distincts d'eux-mêmes, alors que par ailleurs, ils ont décrété l'état d'urgence dans la région?
Alors, les séparatistes ont mis la main sur d'énormes sommes d'argent, déjà pour pouvoir alimenter leurs fonds pour l'administration des régions qu'ils contrôlent. Récemment, à Aden, il y a eu de nombreuses manifestations populaires liées au fait que la situation sanitaire, économique s'est dégradée à Aden, notamment suite aux inondations qui ont eu lieu dans cette partie du pays. Et puis aussi, d'une certaine façon, la politique exercée par les séparatistes depuis leur prise de pouvoir, depuis quelques années à Aden notamment, a montré qu'ils n'étaient pas plus efficaces que le gouvernement pour administrer les choses, pour empêcher qu'il y ait des coupures d'eau et d'électricité, pour empêcher aussi que la situation sanitaire se dégrade encore plus. Il faut savoir que à côté du coronavirus, il y a aussi d'autres épidémies qui, malheureusement, se diffusent à Aden. Et donc, finalement, ce pouvoir-là, on peut aussi considérer que sa popularité est mise en cause par une grande partie de la population du Sud.
Justement, c'était ma question suivante. Est-ce que ce mouvement séparatiste, assez large, est soutenu par la population et notamment par ceux qui ont connu l'indépendance du Yémen du Sud avant 1990?
Alors, évidemment, c'est très difficile à dire. À savoir si l'opinion publique est majoritairement pour les séparatistes ou pour le président Hadi. Ce qui est certain, c'est que le président Hadi, du fait de sa politique aussi népotiste et aussi par la corruption de son gouvernement, a attiré vers lui de nombreuses critiques, que les séparatistes aussi sont accusés de faire le jeu des Émirats arabes unis et donc parfois de jouer contre même l'indépendance du Sud-Yémen, puisqu'ils sont les alliés des Émirats arabes unis. Et donc, aujourd'hui, on a finalement une population du Sud, disons, extrêmement fragmentée. On a vu aussi que la déclaration d'autodétermination des sudistes a rencontré des vives oppositions, notamment dans certaines provinces, celle de Hadramout, puis il y en a d'autres qui, justement, sont contre le fait de se retrouver sous la férule des séparatistes. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que le Sud lui-même est divisé et ne présente pas un front uni.
Mais dans votre article, Franck Mermier, vous insistez sur le fait que la ville d'Aden elle-même est l'objet de toutes les convoitises. De quoi est-elle le symbole, selon vous?
Alors, Aden, c'est d'abord actuellement, disons, la capitale provisoire du président Hadi, mais il ne peut pas, lui, s'y installer. On a vu souvent des combats qui ont eu lieu entre sa garde présidentielle et les séparatistes. Son gouvernement non plus ne peut s'y installer. Cette ville est donc finalement, comme c'est un port également, une des entrées du Yémen, où se déverse finalement aussi le peu d'aide humanitaire qui peuvent arriver au Yémen, notamment par Aden. Il y a aussi le fait que c'était l'ancienne capitale du Sud-Yémen, et donc c'est un pôle politique extrêmement important pour les séparatistes sudistes, évidemment. C'est d'une certaine façon aussi leur base avec quelques régions environnantes pour asseoir leur pouvoir. Et dans le même temps, on sent bien aussi que pour le président Hadi, perdre le contrôle d'Aden est pour lui également d'une grande défaite symbolique, militaire et politique, du fait qu'il ne peut pas rejoindre le territoire yéménite et exercer son pouvoir à partir du territoire yéménite. Et donc, c'est également pour les Émirats arabes unis, le fait d'avoir cette zone d'influence qui s'étend jusqu'à Aden est important pour le contrôle également du trafic maritime et des ports de l'océan Indien et s'inscrit dans cette politique d'influence également des Émirats arabes unis.
Il n'y a pas de nostalgie pour la ville d'Aden, le port d'Aden des années 50, par exemple ?
Alors, chez de nombreux intellectuels yéménites, notamment du Sud, mais pas seulement, il y a effectivement cette nostalgie pour le cosmopolitisme d'Aden, pour le fait que Aden, c'était un peu le phare de la modernité dans la péninsule arabique à une époque, dans les années 50, où les pays du Golfe n'étaient pas encore à leur zénith. Et donc, d'une certaine façon, ce symbole du pluralisme, de l'ouverture, reste encore présent comme aussi élément nostalgique, d'une certaine façon, pour de nombreux yéménites qui finalement recourent à cette modernité yéménite d'une façon qui était créée par le colonialisme britannique pour penser aussi que le Yémen n'est pas condamné totalement à l'obscurantisme tel qu'il s'étend aujourd'hui au Yémen, que ce soit à Sanaa ou à Aden.
Peut-on dire que Aden aujourd'hui hésite entre faire partie du Yémen et faire partie d'une sorte d'Arabie du Sud ?
Alors aujourd'hui, il y a à Aden de nombreux partisans du séparatisme, mais ceux-ci sont aussi divisés entre ceux qui lorgnent vers un ancien Yémen du Sud qui serait plus communiste, évidemment, mais qui reviendrait à ses frontières d'avant 1990, hein, et puis d'autres qui, carrément, finalement, renoncent à toute identification au Yémen, et donc d'où ce nom d'Arabie du Sud qui est ressurgi. Il faut savoir que la Fédération d'Arabie du Sud a existé au Yémen dans les années 60, pendant quelques années, sous l'égide des Britanniques, qu'elle a disparu en 1967 au moment de l'indépendance du Yémen du Sud, et que donc, pour encore plus installer une rupture avec le Yémen, certains voient dans la restauration d'une Arabie du Sud, finalement, un destin pour cette partie de la péninsule arabique. Mais il est certain qu'aujourd'hui, finalement, c'est surtout pour une grande partie de la population, c'est surtout la vie quotidienne et les souffrances de la vie quotidienne qui sont beaucoup plus importantes que ce type de projet politique utopique.
Merci Franck Mermier.
Je vous remercie.
À lire votre article « Aden entre Yémen et Arabie du Sud », c'est dans la revue Moyen-Orient, partenaire de notre émission Orient Hebdo, et dont le numéro 46, consacré au Yémen, sort en kiosque ce mois-ci.
Orient Hebdo sur RFI.
La revue de presse croisée Israël-Monde Arabe, on retrouve Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel Paul à la une de la presse israélienne ce week-end, le projet d'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Pas de précision, mais un calendrier.
Benjamin Netanyahou le souligne à chaque occasion, l'annexion d'une partie de la Cisjordanie est toujours son principal objectif et à l'en croire, c'est pour très bientôt. Il avance même la date butoir du 1er juillet prochain, un mois tout juste, mais effectivement, Eric, dans l'entourage du Premier ministre, on est très avare de détails sur ce projet. Haaretz, le journal libéral, affirme que l'armée israélienne se prépare activement à une escalade militaire dans la région à la suite d'une telle mesure unilatérale. D'autant que, d'ores et déjà, pour la première fois de manière effective, la coordination sécuritaire avec l'autorité palestinienne a été suspendue. Et dans le même souffle, le journal fait remarquer qu'il existe également une opposition de droite en Israël à ce projet. Les colons craignent en effet qu'une annexion soit liée à l'acceptation du plan Trump dans son ensemble. Réponse par avance de Benjamin Netanyahou dans une interview accordée au quotidien Israel Hayom, le journal proche du pouvoir. « Nous ne céderons pas », affirme le Premier ministre, « ce sont les Palestiniens qui le feront ». Netanyahou parle encore d'une entité palestinienne sans mentionner le futur État palestinien. Conclusion du journal, Bibi monte une fois de plus à l'offensive.
Alexandre, le coronavirus fait toujours la une des journaux arabes.
Et dans la plupart des pays arabes, les journaux annoncent l'assouplissement des conditions de lutte contre le coronavirus. Dans certains pays, comme au Maghreb, on déconfine progressivement. Comme dans nombre de pays européens, on lorgne vers une reprise du tourisme. Dans les pays du Golfe, on réduit ou annule le couvre-feu et on reprend les vols aériens à condition de porter des masques agréés. En Arabie Saoudite, où se trouve le Saint des Saints de l'Islam, on rouvre progressivement les mosquées à la prière. Ces mesures sont généralement justifiées par un ralentissement de l'expansion du virus. Le nombre de nouveaux cas diminue, même si on a atteint les 264 000 cas ce vendredi matin, l'augmentation n'est que de 25%, alors qu'elle était de 55% la semaine précédente. Le nombre de nouveaux décès diminue lui aussi, moins de 100 en une semaine. À signaler le record de tests réalisés par les Émirats qui deviennent champions du monde avec 213 000 tests par million d'habitants. En France, par exemple, on a testé que 21 000 par million d'habitants.
Et en Égypte, la presse fait l'écho d'une polémique autour du coronavirus.
À la suite de la mort dans un hôpital public d'un jeune médecin qui avait contracté le virus, le syndicat des médecins a publié un communiqué accusant le gouvernement de négligence pouvant mener le pays à une catastrophe sanitaire. Les premières réactions des éditorialistes proches du pouvoir étaient d'attaquer le syndicat des médecins, certains allant jusqu'à l'accuser de faire le jeu des ennemis de la nation et notamment des frères musulmans. Mais l'augmentation spectaculaire du nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus, plus de 300% en une semaine, a permis à des journalistes indépendants de critiquer les attaques contre le syndicat des médecins. Face aux menaces de grève, le ministère de la Santé a promis de réserver des places prioritaires dans les hôpitaux au corps médical, dont une trentaine sont décédés et près de 300 infectés par le virus.
Autre grand sujet, Michel, le procès du Premier ministre israélien qui s'est finalement ouvert.
L'heure de vérité pour Netanyahou, Bibi devant ses juges, c'est bien sûr le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre tout au long de la semaine, avec notamment le discours du Premier ministre en direct du tribunal, une attaque en règle contre le parquet, les juges, la presse, la gauche. Ce week-end, un sondage repris dans Maariv, 42% des personnes interrogées sont persuadées que les accusations contre Benjamin Netanyahou ont été montées de toutes pièces. Et puis Eric, si de nouvelles élections se tenaient aujourd'hui, le Likoud, le parti de Netanyahou, obtiendrait 41 sièges au Parlement, contre seulement 26 en tout pour les différentes composantes du parti bleu-blanc aujourd'hui démantelées. En d'autres termes, explique le journal, comme le font d'autres commentateurs d'ailleurs, il serait plus aisé pour Netanyahou de former une coalition de droite. À l'heure actuelle, un quotidien qualifie la coalition de gouvernement au sein du gouvernement. Il est intolérable que le gouvernement soit dirigé par un homme sous le coup d'un acte d'accusation pour corruption, affirme une fois de plus Haaretz dans son éditorial. Et Yedioth Aharonot cite un juge de la Cour suprême, un premier ministre sous accusation. C'est un échec éthique.
Alexandre, plusieurs journaux arabes saluent la performance de la chanteuse libanaise Nancy Chagram à l'occasion de l'Aïd.
La superstar de la chanson pop arabe a donné un concert sur le toit d'un immeuble de Beyrouth avec les moyens du bord. Quelques musiciens, un décor bricolé et deux ou trois caméras. Le concert intitulé « Espoir sans limite » a été diffusé sur YouTube. Les revenus qu'il générera iront à une ONG de bienfaisance. Pour plusieurs éditorialistes, cette représentation artistique a été un baume au cœur de millions de spectateurs virtuels du fait du confinement et des restrictions, et de souligner que les artistes seront parmi les plus affectés par le coronavirus, même si leur art permet au public d'échapper à la dépression.
Michel, votre image cette semaine restera longtemps gravée dans la mémoire collective.
Eh bien, c'est la photo de la semaine et même peut-être de l'année. Bien sûr, Netanyahou au tribunal de district de Jérusalem, dans la partie orientale de la ville, entouré de ses ministres, tous soigneusement masqués, coronavirus oblige.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, mise en nom de Mathias Golchani. Abonnez-vous au podcast de l'émission et n'hésitez pas à nous noter. On se retrouve samedi prochain à la même heure. Prenez soin de vous.
Appelez-nous, exprimez-vous.